ça me passionne en fait vraiment. Quand je regarde le fonctionnement d'un microbiote, j'ai l'impression de voyager. Le microbiote adore la diversité, mais comme nous au final. Si nous, tous les jours, on fait les mêmes choses, si on mange la même chose, ben, en fait, au bout d'un moment, on perd du plaisir à le faire, on perd le goût en fait à faire. C'est aujourd'hui, je pense, on a perdu cette notion de pourquoi je mange. On mange avant tout pour avoir de l'énergie, pour avoir du carburant qui nous correspond, du carburant pour faire des choses qu'on aime dans la vie. C'est pas simplement se gaver, c'est pas simplement mettre de la nourriture dans la bouche, quoi. Je leur mets une petite boule de neige, tu sais, et je la secoue devant eux et je leur montre, je leur dis en fait, si ton monde intérieur est tout le temps agité, les gens ne voient pas en fait qui tu es et c'est beaucoup plus difficile de rentrer en communication avec toi et toi avec eux. En fait.
Des métiers de 2030 n'existent pas encore. Je suis Chloé, je suis ingénieure, curieuse et multipassionnée de tout ce qui touche au vivant. J'ai donc décidé de créer un nouveau métier, vivantologue. Dans ce podcast, je pars à la rencontre de ces humains badass qui, par passion et ou par profession, protègent ce précieux vivant, le vivant en soi et le vivant sur cette planète. Ils nous aideront à comprendre les grands enjeux actuels, nous donneront des clés d'action et surtout l'envie d'avoir envie. Et surtout l'envie de nous engager nous aussi en faveur de la construction d'une nouvelle société plus vivante et vibrante, car nous avons tous un rôle à jouer. Bonne écoute. Pour ce deuxième épisode, je rencontrais Amandine Cléché. Amandine, elle a d'abord été kinésithérapeute, elle est aujourd'hui physionutritionniste, phytothérapeute, coach mental et physique spécialisée dans les sports outdoor. Elle est aussi professeure de Hatha Yoga, formatrice et conférencière. Ses titres à rallonge me plaisent, ils rendent unique déjà, et pour moi ils traduisent surtout cette soif de comprendre le monde, et l'humain en particulier. Cette envie de toujours plus explorer, de créer des ponts entre des mondes différents, qui alimentent la créativité et permettent des découvertes. L'audace aussi de redevenir débutant et vulnérable dans de nouvelles disciplines, admettre qu'on ne sait pas tout, peut-être rien, qui place dans une posture humble et ouverte, encore si difficile pour moi, et qui permet pourtant à la vie de nous offrir toute sa magie. Ces slasheuses et ces slasheurs, comme on les appelle, me donnent l'autorisation d'oser sortir des cases et d'assumer que moi aussi, je pourrais passer ma vie à apprendre. C'est le hasard qui nous a fait nous rencontrer, même si je crois de moins en moins au hasard. Un message que j'ai déposé un jour d'audace dans le groupe WhatsApp des thérapeutes de la maison de santé à côté de chez moi. Amandine a répondu. Avec Amandine, ça a tout de suite matché, c'est un soleil et ça fait du bien d'être à ses côtés. Pour l'enregistrement, on s'était donné rendez-vous à son cabinet dans un joli village en pierre dorée typique du Beaujolais. Ce matin-là, le ciel était nettoyé de tout nuage et de toute pollution, le contraste du bleu du ciel et du doré des bâtiments était saisissant. Avec Amandine, on a parlé du microbiote. De lui, je savais qu'il avait été une superstar pour avoir fait les gros titres de livres à succès. Le microbiote avait tellement fait parler de lui que j'avais l'impression de le connaître, mais je ne savais franchement rien. J'ai découvert un monde d'une richesse impressionnante. 100 000 milliards de microbes de 1000 espèces différentes, rien que dans nos tubes digestifs. 2 kilos de vie constituant une usine ultra intelligente dont nous dépendons complètement, mais qui pourtant n'est pas nous. Avec Amandine, on a donc parlé du microbiote, mais on a aussi parlé d'alimentation holistique. Qu'est-ce que ça veut dire se nourrir ? Mais aussi de stress et de prendre soin de soi. C'était passionnant, au point de faire 3 enregistrements différents tellement je ne voulais pas que ça s'arrête. Je l'ai regretté au montage. J'espère que l'échange vous plaira autant qu'il m'a plu de le créer. Et pour commencer, je laisse Amandine nous expliquer ce qu'est un physionutritionniste et un phytothérapeute.
Un physionutritionniste, on va dire que c'est une personne qui va se baser sur la physiologie de l'être humain pour l'accompagner dans une adaptation de son alimentation. Voilà, pour que l'alimentation, en fait, colle au mieux dans son métabolisme pour avoir un bien-être global de la personne. Et phytothérapiste, en fait, c'est tout simplement une personne qui a étudié la phytothérapie. Donc, je me suis passionnée par les plantes. À un moment donné dans ma vie où je me suis dit que on pouvait, pallier certains maux par l'accompagnement par les plantes et pas que de la médication industrielle, pharmaceutique. Même si il faut rappeler que beaucoup de médicaments pharmaceutiques proviennent en fait des plantes.
Merci beaucoup. Alors dans ce podcast, les vivantologues, l'objectif c'est de vulgariser des notions en lien avec le vivant. car le savoir, c'est le pouvoir, et ensuite de donner des clés d'action pour que nous puissions tous nous emparer de ces sujets. Et lors de notre premier échange, je t'avais demandé s'il y avait un sujet en particulier qui te semblait hyper important de vulgariser lié à l'alimentation et à tes expertises. Et tu m'as parlé du microbiote. Pourquoi est-ce que ça te semble si important de parler de ce sujet ?
Je pense que c'est important de parler de ce sujet parce que déjà, on est en plein boom en termes de connaissances par rapport à ce sujet-là. Et que malheureusement, il est encore très méconnu par la plupart des personnes. Et le microbiote va vraiment avoir un impact sur tellement de plans, on va dire, pour le bien-être. On n'en est qu'au début, en fait, de la réalisation vraiment de l'impact de notre microbiote. Et je pense que c'est vraiment important de dire notre microbiote, parce qu'en fait, sans lui, on aurait 15 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'être humain ne peut pas vivre sans son microbiote. C'est impossible. Et il faut savoir qu'en fait, notre microbiote est composé de bien plus d'organismes que ce qu'on pouvait penser. Et il y a même, en termes de nombre, c'est supérieur à notre propre, on va dire, bagage cellulaire, ce qui est en fait incroyable.
Du coup, est-ce qu'on peut rappeler rapidement, enfin rapidement ou pas, ce qu'est le microbiote ? Où se trouve-t-il et comment il fonctionne ? Est-ce que tu peux nous donner quelques informations ?
Alors, en fait, on n'a pas qu'un seul microbiote, on a plusieurs microbiotes. Les microbiotes, c'est l'ensemble des organismes vivants, non pathogènes, pour notre organisme en tant qu'être humain. Ils se situent en gros de partout. Tout ce qui a un contact avec l'extérieur. Donc, même notre intestin, notre estomac a un microbiote parce que, en fait, via la bouche, il va y avoir un contact avec l'extérieur. Donc, la peau a un microbiote, le vagin a un microbiote, voilà. Donc, et chaque microbiote a sa propre composition. Donc là aussi, c'est intéressant parce que sur les traitements, en fonction d'une pathologie, par exemple, si j'ai par exemple un problème au niveau, je sais pas, de la gencive, et certains probiotiques vont aider en fait à réparer la gencive, mais ça ne va pas être les mêmes organismes que ceux qui sont dans l'intestin, par exemple. Et les microbiotes sont des organismes interdépendants, c'est-à-dire qu'ils vont communiquer avec notre cerveau, avec nos cellules, notre système immunitaire, et aussi entre eux, ils vont communiquer entre eux. C'est un petit peu, moi je trouve qu'en fait on a un véritable univers à l'intérieur de nous. Et aussi, moi, j'avais parlé de ce sujet-là parce que moi, ça me passionne, en fait, vraiment. Quand je regarde le fonctionnement d'un microbiote, j'ai l'impression de voyager, quoi. C'est vraiment un voyage intérieur, quoi.
Trop bien, j'adore. Pour préparer cet épisode, j'étais allée voir un peu les chiffres. J'avais vu cette phrase, nous sommes à 90% bactériens et 10% cellulaires. Donc, ça fait référence à ce que tu disais sur le nombre de bactéries. J'avais vu aussi que dans notre ADN, on a 24 000 gènes dans notre ADN qui nous constituent, 3 millions dans le tube digestif, donc microbiote intestinal. Et donc, on se demande actuellement à quel point les bactéries qui nous habitent contribuent à moduler l'expression de nos propres gènes. Et je trouve ça assez incroyable.
Oui, complètement. Comme je te le disais, on est vraiment au début de la connaissance de ce microbiote, au niveau de la communication, au niveau de leur fonctionnement, au niveau de... C'est une intelligence qui est exceptionnelle. Je pense que c'est quelque chose qui, à un moment donné, peut même un peu nous dépasser. Comme tu le dis, il y a un médecin, je crois que c'est le docteur Alouche, qui dit à un moment donné, on peut se même poser la question en fait, de qui est l'hôte, de qui, en fait Et j'aime bien cette idée en fait de rester humble devant la vie avec ce qu'on voit en ce moment. On peut vraiment se poser la question de la place de l'être humain à un moment donné. Peut-être que les petites bêtes que l'on a à l'intérieur de nous ont beaucoup aussi à nous apprendre sur l'écosystème. Alors, on a un véritable écosystème intérieur, interdépendant, indissociable de notre vie. Et il nous apprend beaucoup sur prendre soin de nous-mêmes, quoi.
J'adore. Avant de parler de comment prendre soin de ce microbiote, avec les connaissances actuelles, quelles sont les fonctions qu'on connaît aujourd'hui et qu'on attribue à ce microbiote ? Est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, les fonctions, elles sont assez larges. Le microbiote, on va dire, intestinal, déjà, il a pour première fonction, en fait, de nous aider à digérer. C'est-à-dire que les petites bactéries, tous les micro-organismes du microbiote intestinal ont cette capacité, en fait, de, on va dire, découper, voilà, pour vulgariser un peu la digestion. Mais en gros, ils vont découper les aliments et même certains aliments que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. C'est-à-dire que nous avons des enzymes qui sont là pour nous aider à digérer, etc. Mais nous ne sommes pas capables de toutes les produire, ces enzymes-là. Et le microbiote va déjà nous aider à digérer, en fait. Donc ça, c'est la première chose, parce que comme il nous aide à digérer, il va nous aider à assimiler, en fait, certains nutriments qui nous sont, en fait, essentiels. Voilà. Ensuite, il a un rôle vraiment important dans le système immunitaire, qui est, en fait, notre système de défense. Et c'est là où, aujourd'hui, il y a une avancée en termes de comment on peut, en fait... La conscience qu'on a mis dans notre microbiote, c'est qu'à un moment donné, on s'est dit, on a découvert que notre système immunitaire ne rejetait pas le microbiote. C'est-à-dire que, en fait, tout ce qui fait partie de nous, du soi, en fait, c'est ce qui est reconnu, en fait, par notre système immunitaire. Et il n'empêche que le microbiote est reconnu par notre système immunitaire comme faisant partie de nous, du soi. Et à l'inverse, il y a certains micro-organismes du microbiote qui sont pathogènes, alors qui ne font pas partie du microbiote, mais qui sont des micro-organismes pathogènes. Et là, le système immunitaire, entre guillemets, s'en débarrasse, quoi. Et voilà, le microbiote, il va également servir à la production de certaines vitamines, à certains neurotransmetteurs qui sont essentiels à notre survie, notamment la sérotonine, qui est vraiment... très importante pour nous et pour notre cerveau. Donc en fait, c'est très très large, quoi.
J'avais vu que 80% de la sérotonine est sécrétée par notre intestin. On voit le côté stratégique de ce microbiote. J'avais vu en faisant mes recherches que l'intestin grêle, donc, qui est la première partie du processus d'assimilation et où il y a cette présence du microbiote, si on l'étudie sur des tissus vivants, on remarque qu'il fait 30 mètres carrés avec toutes ses villosités. Et du coup, on comprend bien que c'est une plateforme hyper importante pour nous au niveau immunitaire. Et j'avais vu aussi qu'il y avait plein de neurones. C'est pour ça aussi qu'on entend le deuxième cerveau. Donc c'est vraiment une plateforme logistique hyper importante pour le corps, et c'est passionnant d'en prendre conscience, en fait, et j'avais pas conscience de ça. Peux-tu nous partager ce qui peut déséquilibrer un microbiote ?
Alors, ce qui peut déséquilibrer un microbiote, déjà, tout le monde a subi dans sa vie des phénomènes, des facteurs qui viennent appauvrir le microbiote, ou en tout cas le déséquilibrer, ne serait-ce que des prises d'antibiotiques. Des médicaments, du coup, peuvent venir faire comme une chasse du microbiote. Le sport intensif, c'est pas aussi par hasard que je me suis intéressée au microbiote. Voilà, dans une de mes périodes de vie, j'ai fait beaucoup de sport, et il n'empêche que c'était un facteur qui a eu un impact, en fait, sur ma santé. Et puis l'alimentation, voilà, on en a parlé, le stress émotionnel, un événement dans ta vie au niveau émotionnel peut avoir, en fait, un impact sur le microbiote. Et puis l'environnement, voilà, le facteur aussi qui est posé dans les questions, dans les interrogatoires, c'est est-ce que vous êtes né par césarienne ou plutôt par voie basse, est-ce que vous avez eu des antibiothérapies régulièrement, est-ce que vous êtes plutôt dans un environnement plutôt très stérile, enfant, les trois premières années de notre vie. Si on est plutôt dans un environnement très clos, très, très stérile, ça va avoir un impact, en fait, sur notre richesse, notre diversité, en fait, de microbiote. C'est pas tant le nombre de bactéries qui est important, c'est vraiment la diversité alors je dis bactéries, mais micro-organismes, il n'y a pas que des bactéries, il y a des champignons, il y a plein d'autres choses. En tout cas, il faut savoir que une pathologie avec un traitement antibiotique va vraiment nécessiter une alimentation derrière plutôt riche en végétaux, en fibres, et éventuellement une prise de probiotiques. Ça peut être vraiment intéressant, quoi.
Donc maintenant qu'on a compris à quoi servait ce microbiote, pourquoi il était stratégique pour nous d'en prendre soin, j'ai même la phrase « plus nos bactéries sont heureuses, plus on est heureux ». J'avais lu ça et ça m'a plu. Sachant aussi, ça m'avait marqué pendant les recherches, on a 1000 espèces de bactéries dans le microbiote intestinal qui assurent des fonctions différentes. Comment est-ce qu'on prend soin de ce microbiote? Est-ce que tu as des conseils?
Oui, en fait, des conseils, il peut y en avoir en fait sur plein de terrains possibles, en tout cas sur plein de domaines de notre bien-être. Parce que comme tu l'as très bien dit, notre microbiote va assez bien refléter en fait notre manière en fait d'être à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que il va avoir un impact au niveau de nos émotions. Mais nos émotions vont avoir un impact sur lui. Il va avoir un impact, en fait, sur notre fonctionnement du physique. Et notre rapport au physique va avoir un impact sur lui. Donc, en fait, le microbiote, il est comme nous. C'est-à-dire qu'il va être très sensible au stress. Donc, alors, je vais parler au jeu, comme ça, au moins. Mais plus je me suis rendu compte, en fait, et plus j'ai pris conscience de mes stresseurs, ce qui pouvait, moi, me générer du stress, plus je pouvais agir dans le sens du bien-être de mon microbiote. Parce qu'en fait, plus je vais limiter les stresseurs, plus je vais limiter le stress, en fait, sur mon microbiote. Et l'alimentation en fait partie. On sait aujourd'hui qu'une alimentation plutôt industrielle va être un stresseur pour nous. On sait que les édulcorants sont des stresseurs pour nous parce que du coup, ils vont activer notre système immunitaire. Ils vont affaiblir notre système immunitaire. Si je me suis orientée vers la phytothérapie, c'est parce qu'aujourd'hui, je suis convaincue que faut remettre des végétaux dans notre assiette. Faut remettre de la diversité. Le microbiote adore la diversité. Mais comme nous, au final, si nous, tous les jours, on fait les mêmes choses, si on mange la même chose, ben, en fait, au bout d'un moment, on perd du plaisir à le faire, on perd le goût, en fait, à faire. Et le microbiote adore la diversité, il adore le goût, il adore les couleurs, donc mettre des couleurs dans son assiette. Et puis, prendre le temps. Je pense qu'il y a un des paramètres à l'heure actuelle, sur lequel on peut agir, c'est comment on remplit notre temps. Alors on va parler de comment on remplit notre assiette, comment on remplit notre ventre. Je pense qu'aussi la question, c'est de se dire, est-ce que je prends le temps de manger ? Est-ce que je prends le temps de mastiquer ? Le microbiote adore, en fait, comme nous, faire le moins de job possible. Donc si on mastique, on va moins l'épuiser. Donc déjà, ça peut passer en premier temps, par exemple, comme conseil, observez-vous. Est-ce que je mâche quand je mange ? Est-ce que je prends le temps de mâcher ? Rien que de poser la question, de se dire combien de temps j'ai pris pour manger à midi. Voilà, donc, le microbiote adore le plaisir. Le plaisir, mais le plaisir pour le bien-être. Et il faut... Pour le coup, je pense, modifier un peu notre perception du plaisir, du goût. Ah, quand je parlais d'alimentation industrielle, on sait qu'aujourd'hui, même dans des plats qui sont censés être salés, on rajoute du sucre. Et voilà, enfin, c'est revenir à du naturel, je pense. Voilà, l'alimentation naturelle, déjà.
J'adore cette idée. Bon, ça avait matché dès nos premiers échanges où tu avais beaucoup insisté sur le fait de remettre un peu de conscience dans notre vie pour se demander comment je me nourris, mais sous toutes les formes, pas que alimentaires aussi, dans la vie de tous les jours aussi, qu'est-ce que je donne à manger à mon être. Et ça m'avait beaucoup plu, cette idée. Une autre idée qui m'avait beaucoup plu, j'aimerais bien que tu le développes ici, que tu y reviennes. Tu m'avais dit qu'on avait un microbiote d'occidentaux et pas d'esquimaux ou de japonais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si on part en fait quand même du principe des dernières recherches, c'est notre microbiote reflète en fait d'où on vient. Du coup, on pourrait en fait retracer sur des générations en fait notre hérédité, rien que par notre microbiote. Si on parle du microbiote intestinal, en tout cas, on a tous une cartographie qui nous est propre. C'est comme une empreinte digitale, c'est vraiment un code barre. Mais par contre, notre code barre dans nos familles, on retrouve des similitudes et on peut remonter la lignée. Et quand je te disais ça, c'est parce qu'aussi, pour moi, ça vient avec l'idée qu'aujourd'hui, l'alimentation, elle pullule dans les magasins. Et donc, tu me posais la question de comment prendre soin de notre microbiote. Je pense que ça fait aussi partie, en fait, du soin, c'est de se dire, nous sommes des Occidentaux. Moi, j'ai plutôt, on va dire, dans ma famille, des origines méditerranéennes, italiennes. Et clairement, le régime alimentaire qui me correspond en termes d'humeur, d'émotion, de santé physique, etc., c'est le régime méditerranéen. Et il n'empêche que c'est aussi une des typologies d'alimentation qui est intéressante pour prendre soin de son microbiote. Mais parce qu'aussi, voilà, notre alimentation, elle va être, je te le disais, digérée par notre microbiote. Et donc, on a un microbiote d'occidentaux. Donc, ça fait partie, je pense, de cette conscience-là, de se dire, quand on va chercher des produits naturels dans des circuits courts, eh bien, clairement, le circuit court, on ne va pas manger comme en Amérique du Sud, quoi.
Trop bien. Et puis, ça plaît beaucoup à l'écolo que je suis, puisque il me manquait parfois des arguments pour militer pour cette alimentation plus locale, plus naturelle, plus saine et plus de saison. Et je n'avais pas pensé au microbiote, je n'avais pas pensé que notre corps aimait aussi ça et que ce n'était pas qu'une question écologique, c'était aussi une question de santé. Et c'est, ça m'avait beaucoup plu de le reconscientiser. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre prébiotique et probiotique ?
Alors, pour faire très simple, en gros, les prébiotiques, c'est l'alimentation de notre microbiote. Donc, effectivement, comme tu l'as dit, les prébiotiques, ça va plutôt être ce qui est des fibres, voilà, dans notre alimentation. Donc, les fruits, les légumes, les légumineuses, voilà, le microbiote adore, en fait, cette typologie alimentaire. Et probiotiques, ce sont les micro-organismes constituant notre microbiote. Et en fonction des probiotiques que l'on prend, on ne va pas avoir mêmes espèces bactériennes dans les probiotiques. C'est aussi pour ça que je vais conseiller à des personnes pour lesquelles certains probiotiques ne vont pas forcément avoir une action bénéfique comme elles le souhaitaient, etc. Voilà, quand elles viennent me voir et qu'elles me disent « Oh, mais les probiotiques, j'en ai déjà pris, ça ne marche pas », je leur pose toujours la question « Mais lesquels avez-vous pris ? Et est-ce que vous avez éventuellement changé, varié et on adapte au mieux ?» Je leur dis « Les probiotiques, du coup, c'est pour remettre des micro-organismes dans notre microbiote intestinal et en tout cas, ça, par exemple, je te donnais tout à l'heure l'exemple de la bouche, etc. Vraiment prendre conscience qu'il y a tellement d'espèces que plus on va choisir un probiotique adapté à ce qu'on souhaite comme action, plus ça va mieux ça va marcher. Ou en tout cas, on a plus de chances de réussite, quoi. Et il faut savoir que aujourd'hui, en tout cas à l'heure actuelle, je n'ai pas encore lu d'études qui révélaient des effets secondaires pour des prises de probiotiques. Donc ça, c'est intéressant. Il y a quelques personnes qui peuvent faire, entre guillemets, le retour que sont de temps en temps un peu de diarrhée, des choses comme ça, mais c'est très léger au final comme effet secondaire, quoi.
Si on doit mettre en place un premier petit geste au quotidien pour prendre soin de ce microbiote, qu'est-ce qui pourrait être facilement applicable dès aujourd'hui pour, dans cette démarche, de prendre soin de son intestin ?
Alors, c'est jamais évident de répondre à cette question parce que très souvent, quand j'accompagne les personnes, voilà, que ce soit dans n'importe quel domaine, hein, comme tu le sais, voilà, j'accompagne aussi bien des sportifs de haut niveau que des personnes qui se retrouvent dans des difficultés de changement de vie, etc., ou tout simplement qui veulent remettre du bien-être dans leur assiette. C'est un accompagnement qui est souvent personnalisé et pour que les habitudes puissent durer, les nouvelles habitudes, il faut que les changements soient à la fois progressifs. Il faut aussi que les changements soient possibles pour la personne. J'aurais tendance à dire, d'un point de vue général, que, comme je te le disais, la mastication me paraît aujourd'hui quelque chose, en tout cas, un conseil qui peut être pratiqué par tous, puisque on parle d'alimentation et que on met tous l'alimentation dans la bouche, on est censé mastiquer, et qu'aujourd'hui, avec nos vies qui ont une tendance à aller à 200 à l'heure, on en oublie presque la mastication. Donc déjà, j'aurais dit mastiquer. Et puis, revenir à des produits naturels, donc se remettre un peu à cuisiner. Je pense que c'est quelque chose qui peut être aussi vraiment important et intéressant. Et de jouer sur le tableau du stress émotionnel, de prendre le temps de respirer, de souffler, même juste avant d'aller manger. Aujourd'hui, il y a des études qui montrent que, alors tu parlais de mon côté à voir voilà, l'alimentation dans son ensemble, mais je reste vraiment sincèrement convaincue que ne serait-ce que la manière qu'on a d'arriver devant son assiette, notre manière d'être avant de manger va avoir un impact sur notre microbiote. Si j'arrive, je suis déjà hyper, hyper speed, hyper stressée, que je pense à ma réunion après manger, que en fait je sais même plus ce que j'ai mis, quel aliment dans la bouche. Bon bah le microbiote, je suis pas du tout connectée avec ce qui se passe en moi quoi. C'est aujourd'hui, je pense, on a perdu cette notion de pourquoi je mange en fait. Pourquoi je mange? Et on mange avant tout ben, pour avoir de l'énergie, pour avoir du carburant qui nous correspond, du carburant pour faire des choses qu'on aime dans la vie. C'est pas simplement se gaver, c'est pas simplement mettre de la nourriture dans la bouche, quoi. C'est pas ça en fait.
J'adore cette idée. Et lié à la mastication, ça fait plusieurs fois que j'entends que c'est hyper important. Et moi, je ne sais pas faire. Je vais essayer de mettre plus de conscience dessus parce que ça commence à faire beaucoup de professionnels et d'experts qui disent à quel point c'est important. Et j'aime vraiment beaucoup cette idée de changer notre relation à l'alimentation. Il y a l'art japonais qui consiste aussi à faire des belles assiettes. Et je trouve que c'est remettre du plaisir, comme tu disais, de la joie dans notre alimentation. Ça me parle beaucoup. C'est quelque chose que j'ai un peu oublié. Et donc je vais essayer de m'y reconnecter. Ouais. Tu as parlé plusieurs fois du stress qui impactait le microbiote, mais on sait qu'il impacte toute notre vie et nos émotions. Qu'est-ce que le stress pour toi? Je me pose la question depuis quelques jours parce que j'ai cette notion qui revient avec des experts qui m'en parlent et en fait, j'arrive pas bien à le définir. Qu'est-ce que le stress pour toi?
Le stress pour moi, c'est un mécanisme d'adaptation au changement qu'on a. Voilà. Le stress, c'est en fait une réaction à un stresseur. Souvent, on mélange un petit peu les deux, mais pour moi, c'est il y a un stresseur. Mettons, tu es dans la savane, tu te retrouves face à un lion, le lion va être le stresseur. Voilà. Et ça va générer, du coup, une réaction de stress pour que bah, tu puisses réagir au mieux face au lion. Soit tu grimpes en haut de l'arbre qui est juste à côté de toi, soit tu appelles au secours, ou soit tu rentres vite dans ta voiture, tu fermes les vitres. Enfin, voilà. Et donc ça, on va dire que c'est l'exemple du stress aigu. Par contre, on peut avoir ce qu'on appelle du stress chronique et qui est malheureusement aujourd'hui un des fléaux de notre société occidentale. Le stress chronique peut être en fait une adaptation permanente, sourde, à quelque chose en fait qui ne nous correspond pas. Voilà, et on en arrive à un épuisement.
Est-ce que ça voudrait dire qu'on est sursollicité par plein de stresseurs aussi, cette notion de stress chronique? Est-ce que c'est aussi parce que la société est très stimulante et que du coup, est-ce qu'il y a ça?
Je pense que c'est multifactoriel dans le sens où si on part du principe que c'est un système, le stress, il y a à la fois le nombre de stresseurs, la quantité de stresseurs, quels sont les stresseurs, les ressources qu'on a internes. Plus on a de ressources internes, plus on peut faire face aux stresseurs. Et ça, c'est quelque chose pour laquelle on milite beaucoup avec ma collègue Elodie dans les écoles, parce qu'on part du principe que plus on va transmettre et donner des ressources intérieures aux enfants, que ça soit physique, que ce soit sur les émotions, que ce soit sur le mental, bah, plus on va avoir une capacité en fait, à diminuer le ressenti du stress et donc à diminuer l'impact du stress. Et le stress va avec la notion de charge. C'est-à-dire que plus tu vas avoir une charge, un ressenti face au stress, bah, plus tu vas avoir un risque de dépasser en fait, les capacités d'adaptation de ton système. Donc, bah là, c'est là où on peut en arriver à l'épuisement, à certaines pathologies, etc. Et quand je parlais de stress chronique sourd, on peut être, entre guillemets, alors, victime, j'aime pas trop le mot, parce que ce serait enlever une part de responsabilité et on en a toujours une, mine de rien. Mais en fait, on peut avoir une réaction de stress permanente sans vraiment s'en rendre compte. C'est ce qu'on appelle, en fait, par exemple, l'inflammation de bas grade dans notre corps, qui on en revient avec notre microbiote. Un microbiote qui est déséquilibré, au début, on ne se rend pas vraiment compte de l'impact qui peut y avoir au niveau physique, mais il y a une inflammation de bas grade, c'est-à-dire que notre système immunitaire, il carbure un peu en permanence. On n'a pas des douleurs, mais on a des petits symptômes quand même, par-ci, par-là. Et du coup, à un moment donné, en fait, la cocotte, elle déborde. Pour moi, j'ai vraiment cette image, en fait, d'une balance, tu vois. Et pour moi, le stresseur, c'est quelles sont mes ressources, d'un côté, quels sont les stresseurs. Et je pense que c'est simplement revenir à une conscience de est-ce que je suis à l'équilibre. Et quand j'accompagne les personnes, un des tableaux en fait que je leur fais remplir sur 7 jours, ils me remplissent un tableau sur ce qu'ils mangent pendant 7 jours. Quelle est leur activité physique? Quelle est en fait la qualité, comment ils dorment? Et puis le quatrième, c'est tout ce qui est émotionnel. Et puis une fois qu'on a fait ça, on débriefe. Parce que si on ne prend pas l'être humain dans sa globalité, en fait, à chaque fois, on perd en fait, des parties de conscience ou de connaissance de soi. Et comme tout est interdépendant, en fait, c'est vraiment important. Et puis, je leur donne après un tableau. Ils en font ce qu'ils veulent. Je leur dis, vous en faites ce que vous voulez. Non, je plaisante. Mais dans le tableau, pareil, il y a 4 colonnes. Et je leur demande pendant un certain temps, soit tous les jours, soit quand ils... Voilà. C'est eux qui déterminent en fait la fréquence d'utilisation de ce tableau. Et dans ce tableau, en fait, là, pour les 4 colonnes, c'est toujours les mêmes questions. Il y a une colonne au niveau énergétique, il y a une colonne physique, il y a une colonne émotionnelle, il y a une colonne mentale. Et à chaque fois, c'est les mêmes questions. Comment je me sens? Qu'est-ce que je ressens énergétiquement, émotionnellement, mentalement, physiquement? De quoi j'ai besoin pour rééquilibrer si j'ai besoin? Quelle action je mets en place et quelle est, du coup, derrière mon action, ben, le ressenti après l'action. Est-ce que l'action que j'ai mis en place, elle a du coup eu l'impact que j'avais envie? Est-ce qu'il y a eu le changement que je souhaitais? Et très progressivement, les gens, ils font ça pendant un certain temps et après, ils n'ont plus besoin du tableau. En fait. Et là, on est dans la balance parce que là, on parle des ressources. Parce que qu'est-ce qu'on parlait des actions? Les actions, c'est nos ressources. Et il nous faut des ressources pour passer à l'action. Et l'action, elle te génère aussi des ressources. C'est un cercle vertueux.
Passionnant. Je me souviens qu'une une de nos rencontres, t'avais dit que l'humain était fait pour passer à l'action. Et j'avais bien aimé cette idée parce que je suis la reine de la procrastination. L'action est très dure pour moi, je pense, parce que j'ai pas trop confiance. Mais ça se débloque. Et en effet, d'avoir cette vision, c'est un très bon exercice que tu partages et de faire le bilan un peu de toutes nos ressources pour que ça puisse nous aider dans cette action qui est inhérent au fait d'être humain. En fait. Et aussi, ça me fait penser que souvent, enfin, en tout cas pour ma part, j'étais un peu déconnectée du corps et que du coup, bah, je ne savais même pas quels étaient mes besoins. Et je pense que quand tu dis qu'au bout d'un moment, on n'a plus besoin de ce tableau, c'est qu'on réapprend. Apprend à s'écouter et à se connaître et du coup après on s'enclenche des nouvelles routes où on est capable en fait on se connaît en fait, on revient à la connaissance de soi. Oui, j'avais quand même envie de te poser la question au sujet du yoga, parce qu'on en a parlé plusieurs fois, et j'aimais bien ton approche, et ce que ça t'avait apporté, et en quoi ça reconnecte en fait à plus grand que soi finalement. Mais il y a aussi cette notion de s'ouvrir à l'extérieur et prendre soin du collectif. Est-ce que tu peux nous partager un peu ta vision des choses ?
Oui, alors le yoga pour moi, c'est une philosophie de vie. On peut être yoga en permanence. Être dans l'état de yoga, c'est être là. Voilà. Je pense que c'est en fait quelque chose qui m'a attirée, mais depuis le plus jeune âge, sans savoir que ça s'appelait du yoga, en fait. Petite, j'avais des rituels à observer la nature, à être présente dans mon corps. Et je m'en suis éloignée, je pense, par conditionnement social, pour tout ce qu'on s'est dit sur les différentes choses. Et mon parcours professionnel, voilà, j'ai été kiné, j'ai fait de la prépa physique, j'étais beaucoup dans le corps à un moment donné. Et puis après, je me suis passionnée par l'alimentation, je me suis passionnée par la préparation mentale. Et grâce au Covid, je peux dire grâce au Covid, je me suis mise à refaire à peu près 3 heures de yoga par jour. Et là, en fait, j'ai vraiment pris conscience que plus je prenais soin de moi et de ma capacité à être présente, à être consciente avec moi-même, plus en fait je pouvais rayonner, être apaisée et être en lien avec les autres de manière beaucoup plus posée, en fait, plus calme, plus et de rentrer vraiment en communication avec l'extérieur. Et je pense, en tout cas pour moi, de mon expérience, le yoga, c'est pour moi une philosophie, une discipline de vie qui te permet en fait déjà de communiquer avec toi-même. Et plus tu apprends, plus tu arrives à communiquer avec toi-même, plus tu arrives à communiquer avec les autres. Donc c'est un côté, de l'extérieur, ça peut paraître égoïste, de se dire, je réponds à mes besoins, je me recentre. En yoga, on parle de centrage, d'introspection, de revenir à soi. Mais c'est pour être plus dans la capacité d'ouverture avec le monde extérieur, avec les autres. Parce que ton monde intérieur va te permettre, en fait, de rentrer en communication avec les autres. Et c'est, avec les enfants, c'est une image que je leur donne et qui comprennent très rapidement, en fait. Je leur mets une petite boule de neige, tu sais, et je la secoue devant eux et je leur montre, je leur dis, en fait, si ton monde intérieur est tout le temps agité, les gens ne voient pas, en fait, qui tu es. Et c'est beaucoup plus difficile de rentrer en communication avec toi et toi avec eux, en fait.
J'adore cette image, je vais la garder, elle est hyper percutante. Du coup, est-ce que pour toi, c'est ça l'écologie et prendre soin de cette planète? Est-ce que c'est d'abord revenir à soi pour rayonner quelque chose de plus sain, de plus serein?
Alors, je vais te faire une réponse à la hindou. Je pense que je vais te dire que la réponse est à la fois juste et à la fois fausse. Je pense que oui, pour être dans un écosystème, en tout cas interdépendant, équilibré, il faut penser à soi, à ses besoins, pour être mieux à l'intérieur de soi et du coup ne pas dépendre que de l'extérieur. Mais en même temps, il faut le faire par, j'allais dire, amour pour soi et les autres. Et c'est aussi en voulant, entre guillemets, en ayant cette envie d'un monde plus équilibré, plus juste, plus harmonieux. Pour moi, je le vois comme un cercle vertueux. J'agis à l'extérieur, c'est aussi pour moi. Et j'agis pour moi, c'est aussi pour l'extérieur, tu vois. Enfin, je vois vraiment comme une boucle, en fait, comme un cercle vertueux. C'est pour moi vraiment l'image du jardin. Pour en revenir au microbiote, je pense qu'on a un jardin, vraiment un jardin intérieur. Et c'est exactement comme prendre soin d'un jardin à l'extérieur. Voilà, quand je prends soin de l'environnement, de la nature, c'est aussi pour avoir une meilleure qualité de vie, d'air, des aliments plus sains. Et quand moi, je prends soin de moi et de ce qui se passe à l'intérieur, c'est pour moins polluer l'extérieur, quoi.
que de belles images. Je vais garder tout ça précieusement. Ma dernière question pour toi. On arrive à la fin de ce podcast. Le podcast s'appelle Les Vivantologues. Moi, je suis passionnée par la notion de vivant. Qu'est-ce qui te rend vivant sur cette planète, Amandine ?
Ouais, beaucoup de choses. Je pense qu'il y a un mot qui me vient, c'est la passion. Je suis une personne passionnée. Ce qui me rend vivante, c'est... Il y a un deuxième mot qui vient, c'est vibration. Donc, vibration dans tout le sens du terme. Voilà, j'adore le mouvement, j'adore la musique, j'adore la danse, j'adore les rencontres. Ouais, il y a des rencontres... toutes rencontres peuvent, entre guillemets, te faire vibrer, voilà, que ce soit des rencontres agréables ou désagréables, mais il n'empêche que ça fait bouger des choses à l'intérieur de toi. Donc je pense que ouais, c'est ça pour moi le vivant, c'est de se sentir en mouvement, bouger, et que d'avoir conscience de ça, en fait, et même dans l'immobilité, on bouge, c'est ça qui est chouette.
Merci beaucoup Amandine. Comment est-ce qu'on peut te retrouver, retrouver ton travail ? Est-ce que tu le partages sur les réseaux, sur Internet ?
Je commence à le partager sur les réseaux, sur Instagram, voilà, sur amandine.cléché.yoga.pm. Et comment on peut me retrouver facilement, voilà, par mail, téléphone, les gens peuvent me contacter avec plaisir pour avoir plus d'informations, pas de problème.
Merci pour votre écoute, je serai heureuse de savoir avec quoi vous repartez de cet échange avec mon invité. Qu'est-ce qui vous a parlé en particulier ? Pour cela, vous pouvez le partager sur la page Instagram podcast-les-vivantologues. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez également laisser un avis sur les plateformes de diffusion ou le partager autour de vous à des personnes qui pourraient être intéressées. Merci pour votre aide et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles explorations autour de la notion du vivant.